Affaires.
La voix est libre.
Et c'est l'heure, le croyez-vous, de la Bassigichi avec Daniel Mermet et tous ses copains.
Bonjour à tous. L'humanité du mercredi 27 mai 1914. Extrait. À propos de l'amiante. Les ouvriers travaillent en ces lieux en serrant entre leurs dents un mouchoir mouillé. Misérable protection. Avec ou sans mouchoir, ils meurent vite. L'hiver les achève. En une seule usine qui occupe une centaine de travailleurs, il mourut chaque année durant les 4 mois de mauvaise saison, un homme par semaine. Et cela de 1900 à 1906. Les chiffres précis manquent au-delà. Voilà ce qu'on savait dans ces années-là, à propos de l'amiante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous laisse réfléchir. Voilà, c'était Philippe du Gers et bonne année à tous. Salut.
François Hollande fait un cadeau de 20 milliards d'euros au MEDEF en abaissant les charges patronales. Mais sans aucune contrepartie. Eh oui, François Hollande n'avait pas pensé à demander une contrepartie comme par exemple l'embauche de 500 000 chômeurs, ce qui correspond à 20 milliards.
Imagine le grand patron de TEPCO, peinard depuis des années à engranger un max de thunes. Et d'un coup, paf, la tuile, la poisse, la cagade, bref, le tsunami qui te fout ta centrale en l'air. Laquelle salope toute la planète à grands coups de césium-235. Et presque 3 ans plus tard, M. TEPCO a un nouveau problème. Tout son stock d'ouvriers est devenu inutilisable car trop contaminé. Que faire, que faire? Après un coup de fil à la mafia du coin, M. TEPCO a enfin la solution. Des volontaires désignés d'office, pêchés dans l'inépuisable vivier des SDF et des surendettés. Juste assez humain pour patauger en tongs dans l'eau phosphorescente de Fukushima. Bonne année, monsieur TEPCO, et surtout, bonne santé. C'est Christine du Limousin.
Bonne année à toute l'équipe, et un grand merci pour nous l'avoir fait débuter l'année 2014 avec ce magnifique coup de soleil au cœur qui a été l'intervention de votre dernier invité. J'ai son âge. J'ai 92 ans, j'ai vécu comme lui, les mêmes rêves. Comme lui, je sais que nous sommes en pleine marée basse. Et comme lui aussi, j'espère qu'elle va remonter et qu'on retrouvera le petit gravier. Il a été magnifique, c'était superbe. Encore merci de nous avoir mis cette chaleur au cœur pour le début de l'année. Voilà, c'est Françoise de Saint-Briac.
Ouais, j'ai une question à poser. Moi, je m'interroge un petit peu. Apparemment, Dieudonné, il n'avait pas le droit de faire de la réclame pour récolter des sous parce qu'il avait été condamné par la justice. Est-ce que ça s'applique aussi à Sarkozy, là, qui a organisé le Sarkoton, là, où on a incité les gens à verser des sous à l'UMP pour sa tricherie à l'élection présidentielle? Je me pose la question, est-ce que aussi Sarkozy, il a enfreint la loi en allant demander aux gens de renflouer sa caisse, quoi? Allez, au vive, apportez-vous bien. Belle année à vous.
Mon vœu pour 2014, que je puisse écouter la matinale de France Inter, ne serait-ce qu'une fois par semaine, sans entendre les éditorialistes extérieurs à France Inter invités par la matinale, savoir Barbier, Nicolas Poutou, Dominique, etc., nous dire systématiquement tous les jours, tous les jours, tous les jours, qu'il faut baisser les charges des entreprises, baisser les dépenses sociales, ne surtout pas augmenter les salaires, etc. Et accessoirement que peut-être de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, on invite aussi un éditorialiste extérieur de gauche.
Allô, bonjour. J'aurais bien aimé écouter une émission. En tout cas, j'aurais bien aimé écouter la voix fraternelle et chaude de Daniel Ben Saïd cette année. Merci beaucoup. Au revoir.
Vous avez raison. Vous avez raison. La voix fraternelle et chaude de Daniel Ben Saïd. Vous pouvez la retrouver sur un site qui existe, qui est très facile à retrouver, le site Daniel Ben Saïd, et dans lequel vous pouvez réécouter les émissions qu'on a faites ensemble. Ce qui me plaît dans ce dernier message, là, c'est fraternel. Ça a l'air de rien, mais ça manque pas mal quand même, hein. Un petit poil de générosité, un petit poil de fraternité, ça ne ferait pas de mal en ces époques difficiles. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les dindes votent-elles pour Noël? Vont-elles voter pour Noël? C'est un grand risque que nous courons quand même si on pense aux municipales 2014. Ça va être les municipales, ça va être les européennes. Et la question, autrement dit, c'est pourquoi le Front National fait mieux que le Front de Gauche pour capter le mécontentement populaire. Mmh. Eh oui, ça, il faut quand même commencer à se poser la question. Et Aurélien Bernier, lui, s'est posé la question et il en a fait un livre, La gauche radicale et ses tabous. Pourquoi le Front de Gauche échoue face au Front National? C'est carrément posé. Ça aussi, ça fait partie des trucs. C'est un peu l'éléphant au milieu du salon, mais on le contourne et tout. Mais c'est bel et bien là. Et il essaye d'y répondre en posant des questions, et ben sur l'Europe, sur le protectionnisme, sur la souveraineté nationale. Autant de thèmes que la gauche radicale, ou la gauche de gauche, comme vous voulez, n'ose pas trop se poser, paralysée qu'elle est par la peur de dire la même chose que le Front National. Ah oui, d'accord, mais si on dit ça, ça va faire comme le Front National, donc c'est pas possible. Alors qu'on sait très bien, et en tous les cas, c'est ce que va nous dire Aurélien Bernier, c'est ce qu'il dit dans son bouquin, que beaucoup des idées, enfin des formules utilisées aujourd'hui par le Front National sont piquées à la gauche, notamment à la gauche altermondialiste qui a fait tout ce boulot de montrer la vraie nature du néolibéralisme depuis de longues années, de proposer des pistes et des alternatives et tout ça. Et ben c'est le Front National qui l'a récupéré, ce qui fait que ben c'est Françaises et ces Français résignés, désorientés, en colère, mécontents, vont plutôt vers le Front National. Alors c'est quand même une question assez importante qui se pose à nous autres et à laquelle nous allons essayer, non pas peut-être entièrement de répondre, mais d'apporter des éléments de réponse, de réflexion, d'analyse et puis simplement d'information. Voilà. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Je suis bouleversé par l'émission de Daniel Mermet. Merci, Charles Palland. Merci. Je suis né en 1922 et j'ai tout un passé de résistant. C'est Marcel de Nice. Merci. Je suis bouleversé.
Salut les AMG, le Café Repère Angevin vous passe la bonne année. Et on commence sur les chapeaux de roue avec mardi 7 janvier, le retour de la polémique soulevée par le concept du genre dans les manuels scolaires de SVT. C'est-à-dire comment se définissent, se construisent les notions de féminité et de masculinité. Et comme chez nous au Café Repère, on adore quand les points de vue se confrontent, eh bien nous accueillerons, pour débattre de la chose, le collectif féministe Angevin d'égal à égal, ainsi que l'association catholique familiale d'Angers. Rendez-vous mardi 7, 19h, toujours au bar, le Challenge, 12 Place Manès France. Ciao les AMG.
19h30, ce dimanche 5 janvier. Ben, j'ai pas écouté la radio du week-end, là, je suis rentré chez moi. J'ai allumé France Inter, je suis tombé sur le journal, bien sûr. Pas de nouvelles de Michael Schumacher. Bah, bon, allez, il y a encore un journal à 20h, j'espère qu'ils vont nous dire ce qu'il en est, quoi, parce que je me demande si je vais pouvoir dormir, sinon, hein.
Je n'ai plus l'horloge, je crois qu'il est près de 20h, et je pense que l'on peut donner la première estimation.
20 septembre 1992.
La France dirait oui à l'Europe.
Ratification du traité de Maastricht par les Français.
Et elle le dirait de quelle manière? 51% des Français diraient donc oui à l'Europe.
Les travailleurs, ils n'ont pas à craindre ni l'un ni l'autre.
Arlette Laguiller.
Le problème, il est que justement, le monde du travail, il ne fasse pas confiance à un traité qui ne le concerne finalement pas du tout, pour savoir à quelle sauce il va être mangé.
Le résultat de ce soir,
Antoine Wechter,
ne pourra que nous conforter tous les Verts unis, pour que l'on mette dans ce cadre qu'est Maastricht une Europe plus démocratique et une véritable ambition sociale et environnementale.
Qu'est-ce que vous voulez? On élit un président de la République. social-démocrate, hein, qui nous l'a dit sur tous les tons. Et que fait le président social-démocrate? Il démantèle les acquis sociaux du pays.
Jean-Luc Mélenchon.
Que voulez-vous que les gens comprennent?
France Inter.
Qui a décidé de rendre pire la loi sur les retraites de M. Sarkozy? M. Hollande.
Le 7 octobre 2013.
La vérité est que le Front National prospère sur la résignation et sur la désorganisation du fait que le principal pourvoyeur de ces voix est à l'Élysée.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec Aurélien Bernier, la gauche radicale et ses tabous, pourquoi le Front de Gauche échoue face au Front National? Ah, on est content, Aurélien Bernier, on va avoir la solution. On se pose des questions à la base, si j'y suis, on se dit comment? Crise, chômage, précarité, inégalité, avenir bouché pour une bonne partie de nos contemporains, pas seulement en France, mais en Europe, et peut-être encore plus dans certaines régions d'Europe que chez nous. On a eu des manifs, on a eu des mouvements, les indignés en Espagne, par exemple, entre autres. On constate un rejet presque, pas unanime bien évidemment, mais enfin un rejet notoire et important de ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. Et on se dit que tout ça, eh bien, ça devrait profiter à la gauche, si on a une mémoire, un peu de culture. Eh bien, c'est pas ça du tout qui se passe. C'est que tout ça, ça profite au Front National, qui ne fait rien du tout. Le Front National, je suis sûr que Marine Le Pen est quelque part dans une chaise longue en train de se dorer la pilule tranquillement, pendant que le Front National est en train de monter. C'est pour toutes ces raisons que votre bouquin nous a bien intéressés, parce que vous vous posez à peu près la même question. Vous allez me dire si c'est la question que vous vous posez, parce que la réponse est intéressante en tout cas. La gauche radicale et ses tabous, titre du bouquin, et la question que vous vous posez, c'est pourquoi le Front de Gauche échoue face au Front National. Et ça sort au Seuil ces jours-ci. Vous êtes d'accord avec ce constat de départ?
Oui, d'ailleurs c'est la question qui est à l'origine du livre, étant sympathisant de la gauche radicale, donc celle qu'on peut définir comme étant la gauche non convertie à la social-démocratie et même en rupture avec la social-démocratie. Voilà, il y a une question majeure qui devrait se poser à tout militant de cette gauche radicale, à tout électeur de cette gauche radicale, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans une situation qui bénéficie au Front National de façon très nette. Et même si la présidentielle de 2012 a vu Jean-Luc Mélenchon réaliser un bon score, mais malgré tout, le Front de Gauche au présidentiel reste battu assez largement par Marine Le Pen, et c'est encore pire aux élections législatives, où le Front de Gauche ne réussit pas un score aussi bon qu'au présidentiel. Et donc, voilà, c'est le Front National qui, aujourd'hui, bénéficie de la crise au niveau électoral. À mon avis, il y a deux explications majeures. Il y a eu deux tournants. Un tournant opéré par le Front National et un tournant opéré par une partie de la gauche radicale.
Le changement!
Aidez-moi!
Pain au chocolat!
Facture!
Bleu marine!
Ça suffit!
Le Nouvel Observateur, zapping politique.
Qu'avons-nous à dire aux Français? Qu'avons-nous à dire à cette, ce que moi j'appelle la France du non, de tous ceux qui ont le sentiment d'être tellement dépossédés de leur destin et de leur vie, qu'il ne leur reste plus comme dernier refuge de leur liberté que le pouvoir de dire non à tout.
Henri Guénot.
Si nous ne répondons pas à tous ces Français,
député UMP,
eh bien, le Front National continuera à engranger, les extrêmes continueront à engranger.
Pour l'instant, on n'est pas à la hauteur de la course de vitesse avec l'extrême droite, vous avez raison, et c'est une vraie course de vitesse.
Olivier Besancenot.
Vous savez, c'est le bon réflexe des gens qui viennent me voir en disant bah,
ancien porte-parole du NPA.
Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il ne faut pas y goûter. On va y goûter. Sauf que c'est un gâteau empoisonné. Moi, je leur dis que c'est un gâteau empoisonné.
Nous avons ouvert la main à ceux des patriotes de droite et de gauche.
Marine Le Pen.
Qui veulent nous rejoindre, qui veulent mener un combat.
Présidente du Front National.
Communal avec nous. Nous les attendons. Nous avons proposé une charte avec des principes que nous considérons comme non négociables. Parce que, permettez-moi de rappeler une nouvelle fois, qu'à la différence des autres, nous faisons, nous, de la politique.
Le tournant du Front National, c'est un parti qui, à l'origine, est tout à fait ultralibéral. Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, vante les louanges de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et puis, brusquement, à partir du début des années 90, le Front National abandonne ce discours ultralibéral et devient antimondialiste. Alors, pourquoi ? D'une part, parce que le contexte international change la donne, puisque le bloc communiste s'effondre. En France, au niveau électoral, le Parti communiste bat de l'aile. Et l'ennemi de toujours du Front National, qui était extrêmement anticommuniste à cette époque, eh bien, le Front National n'a plus cet ennemi. Et donc, il peut opérer un tournant. Tournant qui s'explique aussi par l'accélération de la mondialisation. Et notamment l'accélération de la mondialisation au niveau européen avec les négociations sur le traité de Maastricht. Et donc, le Front National comprend qu'il y a beaucoup plus à gagner à être anti-mondialiste, ouvertement anti-européen, que à continuer dans l'ultralibéralisme.
Et peut-être, Aurélien, peut-être en jouant aussi sur les mots, dans anti-mondialiste, il y a un fond, une connotation un peu anti-cosmopolite, quoi. Hein
oui, bien
peu,
sûr.
Et on voit derrière le vrai fond de commerce du Front National, qui est la xénophobie. Mais on joue sur les mots, quoi.
Oui. Après, ce nouveau positionnement, évidemment, se nourrit des positions xénophobes du Front National, mais on a un véritable changement au point de vue des propositions économiques. En 1988, pendant la présidentielle, Jean-Marie Le Pen écrit dans son tract de campagne que l'Europe, finalement, la construction européenne est une chance, parce que ça va permettre d'adapter la société française aux réalités du monde libéral de l'époque, et que ça va permettre de dégraisser l'État, de supprimer des fonctionnaires, de supprimer de la bureaucratie. Donc il le dit clairement, l'Union européenne est une chance. Quelques années plus tard, donc 3-4 ans plus tard, c'est la campagne de Maastricht, et là, le Front National dit pique-pendre de la construction européenne, et opère un véritable tournant. Et ce tournant va permettre au Front National de progresser électoralement et de s'ancrer dans certaines zones, des zones qui sont particulièrement touchées par la mondialisation, par les délocalisations, par la désindustrialisation.
L'heure de vérité.
Bonsoir, Monsieur Le Pen.
Bonsoir.
Le 22 mai 1989.
Première question, est-ce que vous-même, vous vous sentez pro-européen ou, comme on le dit souvent, anti-européen ?
Je suis pro-européen. D'ailleurs, je suis un européen, si j'ose dire, intrinsèque. Étant français, je suis un européen. Je suis aussi partisan de l'union de l'Europe des patries. Pourquoi ? Parce que le monde est ainsi fait qu'il y a des grands empires. Américains, russes, japonais, peut-être demain chinois ou hindous. Et que pour pouvoir rivaliser à tous les niveaux, pour pouvoir garder son indépendance à l'égard de ces grands empires, il faut avoir cette dimension.
Le deuxième mouvement qui se produit quasi simultanément, c'est que la gauche radicale, en tout cas une partie de la gauche radicale, abandonne un discours de critique radicale de la construction européenne et de critique radicale de la mondialisation. En 92 encore, le Parti communiste fait campagne évidemment contre Maastricht et a des mots extrêmement durs vis-à-vis de la construction européenne, mais un discours tout à fait juste. Il présente la construction européenne comme la construction du capitalisme à l'européenne. Ils expliquent très clairement que cette construction européenne va rendre encore plus difficile la lutte contre le capitalisme parce que ce capitalisme sera supranational. Et que c'est une façon, finalement, d'enlever du pouvoir au peuple, qui pourront élire presque n'importe quel gouvernement sans que le cours de la construction européenne change.
Oui, ce que tout le monde constate à peu près aujourd'hui. Enfin, beaucoup de monde constate ça à peu près aujourd'hui, y compris même à France Inter. Certains commentateurs se posent des questions. Des commentateurs du matin.
Et c'est très bien, c'est très bien. Quand on lit la prose du Parti communiste dans les années 80 et jusqu'à Maastricht début des années 90, voilà, on a l'impression de retrouver un discours radical sur l'Europe, un discours radical sur la mondialisation, et en disant, eh bien, il faut. Ce terme n'est pas utilisé à l'époque. Aujourd'hui, on parlerait de relocaliser et de mettre en place des mesures protectionnistes pour lutter contre la concurrence internationale. Le PC porte ses propositions à l'époque de façon tout à fait claire. Et il porte également le refus de la monnaie unique qui est en préparation, qui est en germe dans le traité de Maastricht. Et le tournant se fait... en 1997, de façon très brutale. Il y a un certain nombre de changements qui ont lieu entre-temps, puisque, d'une part, il y a des changements de direction. Georges Marchais quitte la direction du Parti communiste, Robert Rue arrive. Et Robert Rue, qui a un objectif majeur, qu'il affiche d'ailleurs dès qu'il arrive à la tête du PC, qui est de recréer une nouvelle alliance avec les socialistes, eh bien, voit la possibilité de cette nouvelle alliance arriver avec... la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac en 1997. Là, les négociations commencent avec Lionel Jospin et le PS est tout à fait clair. Il dit au Parti communiste, si vous voulez gouverner avec nous, vous ne pouvez pas continuer à tenir ces positions sur la construction européenne et notamment sur la monnaie unique. Donc c'est un ultimatum des socialistes. Et malheureusement, Robert Rue se couche et accepte cet ultimatum pour rentrer au fameux gouvernement de gauche pluriel. Et à partir de là, le Parti communiste abandonne ses positions historiques sur la lutte contre la construction européenne, la lutte contre la mondialisation capitaliste.
Et le Front National ramasse.
Exactement. Et le Front National reste seul à porter ce discours.
Il est plus que temps de s'apercevoir que vous vous êtes trompé de chemin.
Marine Le Pen au Parlement européen.
Que poursuivre dans votre politique socio-économique.
5 février 2013.
Semblable d'ailleurs à celle de vos prédécesseurs, c'est faire le jeu exclusif des puissances d'argent et d'une Union européenne quasi totalitaire. Une Europe de Bruxelles et de Berlin sous l'emprise des banksters. Eh bien... dans ces conditions, Monsieur le Président, quand au nom de la France et d'une autre Europe, déciderez-vous enfin à tourner le dos à ce modèle économique ultralibéral et mondialiste qui détruit depuis plus de 20 ans les
merci
emplois,
beaucoup, Madame
le niveau
Le Pen.
Et la qualité de vie des Français.
Oui, vous avez largement dépassé votre temps de parole. Merci beaucoup.
Aurélien Bernier, vous regardez la scène politique, vous regardez les partis et les leaders, mais il y a des électeurs, il y a une opinion qui est très perplexe vis-à-vis de l'Europe. Maastricht, ça passe, mais juste. Mais il y a tout un discours, et quel discours en faveur de l'Europe, et qui est de dire, il faut, c'est l'avenir, l'Europe c'est l'avenir, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Européens, à bas la guerre, vive la paix. Si vous ne votez pas oui à l'Europe, vous êtes pour Auschwitz, c'est ce que dira notre ancien président d'ici, Monsieur Cavada, par exemple. Enfin voilà, on a une pression, on a un avenir, on a une utopie qui est l'utopie européenne. Un certain nombre y croient, d'autres doutent, mais peuvent attendre des contreparties. On va perdre une certaine souveraineté française, mais on va avoir autre chose. Après tout, c'est déjà arrivé à des régions françaises qui ont perdu de leur souveraineté, mais qui ont eu des contreparties qui les a consolées de la perte de ces souverainetés. Sauf que la souveraineté est perdue, est en train de disparaître pour les Français, mais les contreparties n'arrivent pas.
Oui, on a une véritable confiscation de la démocratie par les élites européennes qui veulent construire une puissance supranationale pour éviter que des politiques socialistes, mais des vraies politiques socialistes, puissent être mises en œuvre dans un État membre. Alain Madelin disait que la construction européenne était une assurance contre le socialisme, et c'est tout à fait ça, puisque le traité européen, les différents traités, celui de Lisbonne aujourd'hui, les centaines de directives et les règlements européens vont tous dans le même sens, celui de l'ultralibéralisme, et que ce droit européen s'impose aux États. On a rajouté une deuxième couche avec la création de la monnaie unique. Monnaie unique qui suppose une politique monétaire unique. Et évidemment, cette politique monétaire est ultralibérale, tout comme le traité, et vient compléter l'arsenal juridique européen. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est imaginons que la gauche radicale, demain, soit élue. Elle arrive au pouvoir, évidemment, avec un programme de gauche radicale, donc avec un certain nombre de mesures de rupture avec le capitalisme. Eh bien, la totalité de son programme serait incompatible avec le droit européen. Donc, il y a deux solutions. Soit la gauche radicale renonce à son programme, elle peut s'excuser éventuellement en disant « on est désolé, c'est pas de notre faute, mais on ne peut pas mettre en place nos mesures parce que le droit européen nous en empêche ». Ou alors, elle décide de désobéir à l'Union européenne. Si on veut mener des politiques de gauche, il faut désobéir à l'Union européenne. Et il faut également sortir de la monnaie unique pour récupérer une souveraineté monétaire et mener des politiques différentes. Et le problème de la gauche radicale, c'est qu'elle est extrêmement floue. Elle a commencé en fait en disant il faut réformer l'Union européenne de l'intérieur.
Mmh. C'est ce que dit le Front de Gauche.
C'est encore aujourd'hui ce que dit le Front de Gauche. Mmh. En sachant qu'il y a plusieurs sensibilités, évidemment, dans une organisation comme le Front de Gauche. Le Parti communiste étant beaucoup plus pour cette réforme de l'intérieur sans toucher véritablement aux institutions ni à l'euro. Mmh. Le Parti de Gauche étant plus favorable à la désobéissance européenne. Mais il faut bien voir que cette désobéissance européenne, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désobéir en disant « bon, moi, j'aime pas la directive sur les services publics, je dénonce la directive sur les services publics, moi, je suis écolo, j'aime pas celle sur les OGM, je dénonce la directive sur les OGM ». Ça ne peut pas se passer comme ça.
Das ist Europe. Ich liebe dich. Das ist Europe.
Ta gueule, connard.
C'est la mondialisation de l'économie, la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Das ist Europe. Ich liebe dich. Das ist Europe.
Allez, va manger, connard.
Si au début de notre entretien, Marine Le Pen était dans sa chaise longue en train de bronzer, si elle vous écoute, elle dit « Mais ce gars-là est formidable. Ce gars-là est formidable. Il parle comme moi. » Mais ce Aurélien Bernier qui sort aux éditions du Seuil un livre intitulé « La gauche radicale et ses tabous, pourquoi le Front de Gauche échoue face au Front National », on va le prendre dans notre équipe, il parle exactement comme nous, il est contre l'Europe, il est contre l'euro, vous inscrivez quand ?
Alors, il y a absolument aucune chance.
Hein. Je plaisante, parce que vous savez bien que ce qui inhibe le Front de Gauche ou la gauche radicale ou les gens de gauche par rapport à l'Europe, c'est de dire oui, mais alors attention, si on dit ça, on va parler comme le Front National. Et ça, c'est impossible, d'une telle diabolisation du Front National depuis si longtemps, sans essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je parle des gens de gauche en général. Mais pas seulement de gauche, sans chercher à comprendre comment ça fonctionne, sans chercher à savoir qui sont les électeurs du Front National et pourquoi votent-ils pour ce parti, eh bien, on en arrive à cette inhibition qui explique beaucoup de choses quant à l'attitude ou l'opinion qui s'exprime.
Mais tout à fait. Enfin, d'ailleurs, on m'a déjà fait le coup, hein, puisque en réunion publique, quand j'explique que je suis pour la sortie de l'euro aujourd'hui, j'ai des militants du front de gauche, notamment des militants communistes, qui m'ont déjà dit « Mais quand même, tu dis la même chose que Marine Le Pen. » En fait, la gauche radicale est tombée dans un piège qui est celui, j'ai pris une petite formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais de l'anti-lepénisation des esprits. C'est-à-dire, en fait, prendre le contre-pied systématique du Front National. C'est-à-dire, si le Front National dit qu'il fait beau, la gauche radicale va dire qu'il pleut. Et quelle que soit la couleur du ciel. On est un peu dans cette logique-là, et à partir du moment où le Front National dit il faut sortir de l'euro, la gauche radicale a tendance à dire non, il faut garder l'euro, puisque si le Front National dit qu'il faut en sortir, c'est suspect. Et la confusion qui est faite, c'est la confusion entre certaines mesures techniques qui sont aujourd'hui portées par le Front National, mais qui autrefois étaient portées par la gauche radicale, notamment le Parti communiste en 1992, donc ils ne sont pas la propriété du Front National.
Pas seulement, vous citez Alain Lipietz, par exemple,
oui,
alors, qui n'est pas au Parti communiste.
Non, qui n'a jamais été, au contraire, qui a été maoïste et qui est ensuite rentré chez les Verts. Lipietz, en 84, avant de rentrer chez les Verts, disait « il faut du protectionnisme et il faut sortir du serpent monétaire européen », c'était pas encore la monnaie unique, mais c'était le SME, et il allait même plus loin en disant « si on ne peut pas mener des politiques de gauche dans le cadre de la construction européenne, il faut le faire autrement, avec tous les États qu'ils souhaitent, mais en dehors du traité de Rome ». Donc, Lipietz, en 84, défendait la désobéissance européenne que je défends aujourd'hui. Donc, on a eu quand même un revirement spectaculaire, alors, évidemment, qui commence à partir du moment où le Front National émerge sur la scène politique, et notamment en 1984, quand ils font 11% aux élections européennes. Mais cette confusion entre des mesures techniques qui sont aujourd'hui reprises par le Front National, mais avant qui étaient préconisées par la gauche radicale, et confusion avec l'objectif politique. Il n'y a aucune confusion possible entre l'objectif politique du Front National, qui est de restaurer la compétitivité de la France sur la scène internationale sans rien changer aux règles de la concurrence internationale, de défendre un capitalisme franco-français, de défendre sans doute un emploi franco-français, mais dans un contexte tout à fait capitaliste. Le projet de la gauche radicale, ça doit être exactement l'inverse. Agir pour commencer un changement de l'ordre économique international. Donc on est sur des objectifs totalement opposés. Après, si on dit la même chose, entre guillemets, sur un sujet technique qui est la sortie de l'euro, moi ça me pose aucun problème. Donc il faut briser ce tabou du Front National et il faut arrêter d'avoir cet épouvantail du Front National qui paralyse la gauche.
Je suis probablement le seul député vivant à avoir voté contre le traité de Rome.
Jean-Marie Le Pen.
C'est vous dire que je savais que les promoteurs avaient l'intention d'en faire les États-Unis d'Europe, ce que je désapprouvais pour ma part.
C'est l'euro qui est le fond de notre problème. Et je crois pouvoir vous dire que j'ai été la seule depuis des années.
Marine Le Pen.
Seule à le dire.
Moi, très honnêtement, je crois que l'Ukraine aurait malheureusement tort de rentrer dans l'Union Européenne.
Marion Maréchal Le Pen.
Vu de l'enfer que c'est.
Je parlais il y a quelques jours avec le maire d'une ville du sud de la France à côté de Marseille et qui me décrivait l'électorat Front National de sa ville. Je peux la citer, c'est Aubagne, tout simplement. Et il nous expliquait qu'il y a 25% d'électeurs du Front National dans sa ville. Lui, il est communiste. Il a un front de gauche, si on peut dire, très élargi, qui dirige la ville jusqu'aux prochaines élections. Mais il décrivait ses électeurs du Front National, qu'il connaît très bien, parce que ça fait plusieurs mandats qu'il est là. Et il décrivait, il disait, il y a un électorat du Front National, il y a l'électorat des collines autour de sa ville. Il dit ça, c'est un électorat du vieux, c'est-à-dire du père.
c'est-à-dire des gens très radicaux sur des valeurs nationalistes, xénophobes, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi le Front National des Cités. Et il disait, c'est depuis 20 ans, c'est des gens qui, faute d'espoir, faute de boulot, sont complètement délaissés, abandonnés, et cherchent, tâtonnent vers un sauveur, vers une issue. Les issues jusque-là étant toutes inopérantes, eh ben, ils se tournent tout simplement vers le Front National. Il avait une analyse extrêmement simple, mais pleine de bon sens sur cet électorat, alors que, dans la petite bourgeoisie intellectuelle, on a fait une diabolisation qui n'est pas exempte d'un certain racisme social, bien souvent, et qui interdit de comprendre cet électorat et d'avoir dressé ce mur, ce tabou face à cet électorat et à ce que ce parti peut représenter.
Ce qui est frappant dans les zones désindustrialisées, c'est à quel point le discours qui revient systématiquement, c'est « la gauche nous a trahis, on était un peuple de gauche, beaucoup de gens avaient des parents communistes, certains étaient eux-mêmes soit socialistes, soit communistes, la gauche nous a trahis et a trahi le monde ouvrier. Et aujourd'hui, les seuls qui semblent vouloir défendre le monde ouvrier, c'est le Front National. » Et effectivement, on comprend mieux pourquoi on a une implantation du Front National dans ces zones défavorisées, à partir du moment où le Parti communiste a renoncé à dire on se bat contre l'Union européenne et s'est mis à dire finalement on se bat pour la changer de l'intérieur, ce à quoi personne ne croit. Et que le Front National, inversement, s'est mis à dire bah nous, vous inquiétez pas, on sort de l'euro, on fera ce qu'on veut, éventuellement même on quittera l'Union européenne, hein, puisqu'ils ont lancé une pétition à ce sujet-là. D'ailleurs, ils ont un double discours, parce que le discours dans les médias n'est pas le même que dans le programme politique. Le programme politique est beaucoup plus réformiste, notamment sur la sortie de l'euro, où ils proposent de faire une sortie concertée avec les autres États. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais ils ont cette image de radicalité. À l'inverse, le Parti communiste porte un fardeau qui est celui d'avoir participé avec le Parti socialiste à finalement l'abandon des politiques de gauche. Et aujourd'hui, si la gauche radicale veut convaincre, eh bien il faut qu'elle arrive à convaincre qu'elle fera pas les mêmes erreurs et qu'elle va mener des politiques tout à fait différentes. Et par exemple, quand la gauche radicale dit « Bon, évidemment, on n'est pas d'accord avec l'euro tel qu'il fonctionne aujourd'hui, mais on va réformer l'euro. » Et dit « On va aller négocier avec Madame Merkel et vous allez voir ce que vous allez voir, on va obtenir une refonte de l'euro pour mener des politiques sociales. » Là, la gauche radicale fait une erreur terrible, c'est qu'elle ne se rend pas compte que c'est exactement avec ce type de discours que le Parti socialiste a trahi le peuple et a trahi son électorat. Quand François Hollande va dire « je vais négocier avec Madame Merkel, je vais obtenir des avancées sociales et on va construire l'Europe sociale » et qu'il revient la queue entre les jambes, eh bien, c'est une trahison patente. Et les gens ne croient plus à ce discours-là. Ils ne croient plus, et à juste titre, qu'il est possible de négocier et d'obtenir une Europe plus sociale.
L'UMP de Nicolas Sarkozy est vaincu. Le Front National de Marine Le Pen est vaincu. Je vous invite à soutenir comme un seul homme le candidat du changement, le candidat de 2012, j'ai nommé François Hollande.
Pierre Moscovici,
2012 pour les socialistes,
Aurélie Philippe Petit,
ensemble avec François Hollande,
Solferino,
la France avec François Hollande.
On y va.
Si vous êtes pour la liberté, si vous êtes pour l'égalité, si vous êtes pour la fraternité, si vous êtes pour la victoire, votez François Hollande.
Julien Bray,
votez François Hollande.
Alice Soumaré,
ensemble.
On On est avec Aurélien Bernier, La gauche radicale et ses tabous. Ça, c'est le titre. Et la question que se pose Aurélien Bernier, c'est pourquoi le front de gauche échoue face au front national. Ce qui rejoint, Aurélien, le bouquin de Thomas Frank dont on a parlé récemment, Pourquoi les pauvres votent à droite. Là, c'est, lui s'intéresse à la scène américaine, mais enfin, c'est le même genre de question. Vous avez parlé de protectionnisme à plusieurs reprises. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Je voudrais bien savoir ce que serait. De quel protectionnisme vous rêvez, précisément? Comment ça marcherait, votre protectionnisme?
Je pense qu'il faut un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire un protectionnisme qui serve une politique de relocalisation. Donc déjà un protectionnisme qui soit progressif, hein. On va évidemment pas supprimer les importations de but en blanc de produits qui ne sont plus fabriqués sur le territoire national, mais petit à petit favoriser la relocalisation. Pour prendre un exemple, dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, on importe la quasi-totalité des aliments pour bétail. Donc le bétail qui est élevé en France et en Europe est nourri essentiellement avec des aliments importés du continent américain. Beaucoup de soja qui est à 70% transgénique au passage et qui est produit par des multinationales qui vont déforester dans des pays comme le Brésil pour produire ce soja. Donc un bilan extrêmement lourd et du coup une dépendance complète vis-à-vis des multinationales. Si on voulait gagner de l'indépendance sur la production alimentaire, eh bien il faudrait se remettre à produire des protéines pour nourrir les animaux et donc mettre en place des quotas pour progressivement réduire les importations de soja transgénique et produit dans des conditions absolument déplorables. Et ce protectionnisme empêche absolument pas de coopérer avec les autres États, parce que évidemment c'est pas du tout ou rien, on va pas arrêter de commercer, mais ça permettrait de décider démocratiquement ce qu'on produit, ce qu'on continue à importer et avec qui on négocie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le libre-échange permet à des grandes multinationales d'aller délocaliser la production dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, d'exploiter les salariés dans ces pays, de polluer l'environnement au passage, et de réimporter la production sans avoir à acquitter de droits de douane ou sans avoir à trop souffrir de réglementation. Eh bien, l'idée, c'est de ne plus autoriser cette libre circulation des marchandises et de faire des choix politiques. De dire, on va privilégier tel et tel type de production, on va privilégier des partenariats avec tel et tel pays parce que on a des objectifs communs. Voilà, c'est construire un protectionnisme intelligent.
C'est la France aux Français. C'est la...
Non, c'est.
Ah, c'est ce qu'on va vous dire.
Oui, non, mais c'est ce qu'on dit, bien sûr. Mais c'est le contrôle des modes de production et surtout, c'est casser quelque chose d'insupportable qui est le chantage aux délocalisations. Parce qu'il faut bien voir que le libre-échange, c'est pas simplement pour les multinationales augmenter leurs profits en allant chercher les coûts de main-d'œuvre les plus bas. C'est aussi faire pression sur les réglementations sociales et environnementales dans les pays occidentaux. Parce que font les dirigeants de multinationales quand un gouvernement menace de prendre une réglementation environnementale un peu contraignante?
Bien sûr.
Eh bien, immédiatement, on a un chantage aux délocalisations.
Oui.
Et finalement, la délocalisation en tant que telle est presque marginale par rapport au chantage qui est fait et qui finalement empêche d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les normes de protection de l'environnement. Alain Lipietz, pour revenir à lui, le disait extrêmement bien en 1984. Le protectionnisme ne résout rien en tant que tel, mais il permet, il est la condition incontournable pour pouvoir mener des politiques de gauche.
La vraie
François Hollande.
Identité du Parti Socialiste et des socialistes européens, parce que pour faire l'Europe, il faut quand même le faire avec d'autres.
2008.
C'est d'organiser un continent capable d'assurer l'échange, parce qu'on n'est pas là simplement pour empêcher les plus pauvres que nous de faire venir leurs produits, parce que si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait que, comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud...
Ça, c'est pas la rhétorique non, mais de gauche pour ne rien faire.
Je pense que c'est quand même très important...
De défendre le prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat.
Je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationale. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens.
Un autre thème pour finir, Aurélien. le sentiment national, ça c'est plus flou. Mais pourtant ça existe bel et bien. C'est ce sentiment d'être français. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait toutes les imbécilités qui sont liées à de tels mots. Mais pourtant, ça existe bel et bien. On va en cette année 2014 célébrer l'entrée en guerre de la France il y a un siècle pour la boucherie que l'on sait, et on sait ce que le nationalisme exacerbé, le chauvinisme a pu engendrer dans notre histoire, avec quand même des gens assez talentueux qui s'y étaient opposés à cette entrée en guerre. Je pense évidemment à Jaurès. Mais enfin, on a l'impression depuis, je sais pas, 20 ou 30 ans, ou peut-être davantage d'ailleurs, que on est vraiment le pays le plus pourri du monde, avec, on est des colonialistes, le génocide du Rwanda c'est nous, les juifs c'est nous qui les avons balancés, etc. C'est une véritable horreur ce pays. Je me demande si ça fait pas un peu beaucoup et un peu trop. Le discours que je suis en train de caricaturer à l'envi est le discours là aussi de la petite bourgeoisie intellectuelle. Et je suis pas sûr que ce soit le même que celui des milieux populaires et des milieux des Français, du milieu populaire issu de l'immigration non plus.
Oui, il y a tout un discours qui contribue d'une part à dévaloriser la France et d'autre part à considérer que l'État est quelque chose de périmé, d'obsolète. Bon, il y a trois grands arguments anti-État. Le premier, c'est que l'État, c'est le nationalisme et la guerre. Le deuxième, c'est que l'État est par définition économiquement inefficace. Et le troisième, c'est que l'État est incapable de répondre aux grands enjeux mondiaux, la lutte contre la pauvreté ou, particulièrement en ce moment, la question environnementale. Donc ça, c'est un discours qui est construit pour délégitimer l'État et pour légitimer la mondialisation.
On le rencontre beaucoup, ce discours-là. On l'entend beaucoup dans les milieux libertaires, oui. Anti-étatiques.
Oui. Oui. Même si certains mouvements trotskistes sont en train de revoir leur discours, ce qui est extrêmement intéressant. Bon, ils ont compris, je pense, que ce discours anti-État était celui des libéraux et que aujourd'hui, si on voulait lutter contre la mondialisation néolibérale, eh bien, il n'y avait pas d'autre moyen, il fallait passer par l'État. Et que le verrouillage des institutions européennes, le verrouillage des institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, fait qu'on a besoin d'État. Donc on a un discours qui change. Après, sur la France, il y a un événement qui a été assez caricatural, c'est quand Sarkozy a lancé ce débat sur l'identité nationale. La gauche a décidé de ne pas relever ce débat. Et c'est dramatique, parce que qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Eh bien, que l'identité nationale, pour la gauche, c'était par exemple la Révolution française. Que la nation, eh bien, c'était ce concept révolutionnaire, le fait de, là où on avait des sujets, de créer un peuple.
Il faut dire, Aurélien, que, sans vouloir vous offenser, Sarkozy y avait pensé. J'espère que vous ne prenez pas ça mal, mais il y avait pensé. Par exemple, si on songe à Guy Môquet, il avait déjà eu l'idée de détrousser la gauche de ses symboles et de sa mémoire. C'est le talent de vos adversaires de droite et d'extrême droite, ce talent de détrousser la gauche de ses bijoux de famille.
Ouais. Alors vous parliez de Jaurès, c'est aussi extrêmement inquiétant de voir le Front National qui reprend l'image de Jaurès dans certaines affiches qui ont été sorties, qui disent « Aujourd'hui, Jaurès aurait voté Front National ». Ce qui est évidemment scandaleux, d'autant que Jaurès faisait très bien la distinction entre ce nationalisme de repli et au contraire la défense de la nation comme condition de la souveraineté populaire, et même comme condition de l'internationalisme. Voilà, et je pense qu'il y a une véritable urgence à reconquérir du terrain sur les deux volets, c'est-à-dire le combat culturel et le combat programmatique qui permettra de dire, eh bien oui, la gauche doit porter la rupture avec le capitalisme ultralibéral, et s'il faut désobéir à l'Union européenne, sortir de l'euro, mettre en place du protectionnisme pour faire ça, on le fera. Et on ne fera pas que ça, à la différence du Front National. On mènera aussi des politiques internationales qui iront vers la coopération.
Le mot le plus important que vous avez prononcé, c'est reconquête.
Oui. Pour commencer cette année, on va sortir de cette déprime et on va partir à la reconquête avec des arguments qui sont très nombreux dans votre bouquin. Il y a des pistes, il y a des idées et c'est le moment de s'interroger et c'est le moment de partir à la reconquête. Merci Aurélien Bernier.
Merci, merci. Daniel.
Moi, président de la République, moi, président de la République,
voilà, merci Aurélien Bernier. Pourquoi le FN fait mieux que le Front de Gauche pour capter le mécontentement populaire? La gauche radicale et ses tabous, c'est au seuil et ça sort aujourd'hui. Et puis, pour aller plus loin, vous pouvez lire sur le site Russe Europe, une critique du livre d'Aurélien Bernier par Jacques Sapir. C'est très constructif et très éclairant. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et vous pouvez réécouter également l'émission sur là-bas.org. La-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Mathias Alléon. Au montage, Jonathan Duong. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Caderer. Et Stéphanie Fromentin attend un message sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Si tout se passe bien demain, dans la base, si j'y suis, on va parler de sexe. De sexe. À 15h, demain. Mais pour l'instant, c'est Pochon. C'est Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est ici?
C'est un café.
Mais c'est tout nouveau?
Oui.
C'est un bel endroit pour commencer l'année. Comment ça s'appelle?
Café Monde et Médias.
Monde et Médias? C'est vachement prétentieux, ça. Vous voulez pas parler? Il y a quelqu'un qui veut parler ici?
Oui, au fond, là.
Au fond? Bonjour à tous et bienvenue au Café Monde et Médias, place de la République. Eh oui, nouvelle année, nouveau lieu. Bonjour madame la manager, il paraît que vous ne voulez pas parler.
Non.
Mais pourquoi? Vous n'aimez pas France Inter?
C'est pas ça, mais je suis timide.
Ah oui, ça c'est pas grave ça. Moi aussi, vous savez. Comment?
En direct.
On est toujours en direct dans la vie. Hein.
Toujours en direct.
Ah ouais, ouais.
Si mon père écoute la radio, il risque de m'entendre, c'est ça?
Est-ce qu'il écoute France Inter, votre père?
Je sais pas. Je pourrais pas vous dire.
C'est pas vrai. Vous savez pas que la radio qu'écoute votre père?
Il écoute souvent les radios musicales. Donc,
alors, il y a peu de chance alors.
Nostalgie, RFM.
C'est ça. Faites de la publicité pour les autres, vous? Vous voyez pas ce qui a marqué sur mon micro?
Si, France Inter.
Bon. Et vous faites quoi, monsieur, au Café Monde et Médias?
Je suis chef de rang dans cet établissement.
Chef de rang? Ça, c'est joli comme nom.
C'est vrai que c'est un joli nom.
Qu'est-ce que vous avez fait pour être chef de rang?
Moi, j'ai fait pas mal de boulot qui était dans la restauration. Et en me faisant recruter ici, on m'a proposé ce poste. Et...
Vous êtes formé sur le tas? Vous n'avez pas fait d'école?
Si, si, j'ai fait une école de tourisme qui n'a rien à voir avec la restauration. Et, et comme je, voilà, moi, mes parents sont dans la restauration, c'est de père en fils, etc. Je suis arrivé ici avec ce métier dans les mains que je connaissais déjà auparavant.
Et... En quoi il est différent ce café des autres cafés? Parce que je vois par exemple que derrière vous, il y a des thés équitables, café équitable, ou même pas équitable, d'ailleurs c'est étiquable. Donc il y a une éthique.
En fait, c'est un café qui travaille à 100% sur des produits qui sont bio, que ce soit nourriture ou boisson, donc en cuisine ou en salle. Et c'est l'avantage de ce café, qui est aussi un café, comme vous pouvez le voir par les baies vitrées, très ouvert. Ce qui fait qu'il y a quand même une ouverture d'esprit, d'où son nom, Café Monde et Médias. Et... Là, vous êtes là le soir en tant que radioman, je ne sais pas comment on dit.
Oui, c'est ça.
Si vous êtes là, c'est que justement, ça vous portait... Vous aviez des petites questions, ça vous...
Oui, j'étais intrigué par un espace comme ça.
Si, c'est la liste de toutes les conférences qui sont organisées pour le mois, il me semble.
Ah oui, d'accord.
Donc, voilà, donc avec des thèmes...
Alors là, je vois nouveau monde, nouveau lieu. Pourquoi vous me regardez comme ça, madame?
Ah, je risque... Non, non, je me regarde...
Qu'est-ce que vous faites là?
Ben moi, je suis venue pour une réunion sur l'habitat participatif.
l'habitat participatif.
C'est visiblement un des volets de la réunion de ce soir, donc c'est pour ça que je suis venu.
Et alors, c'est quoi l'habitat participatif?
Justement, en l'occurrence, l'habitat participatif, c'est souvent des coopératives d'habitants, donc c'est souvent de l'accession à la propriété, alternative, mais de l'accession à la propriété. Et moi, je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas imaginer dès aujourd'hui des choses sur la location participative. Donc c'est ce que je suis venu dire, parce que moi, j'ai un projet de location participative, parce que je pense que tout le monde n'accédera pas à la propriété, et que donc, il faut vraiment se pencher dès aujourd'hui sur les nouveaux principes de location participative et pas attendre 30 ans comme on l'a fait pour le HLM.
Alors concrètement, moi j'ai envie, j'ai pas de logement et tout. Et...
Alors nous en fait on s'est inspiré des coopératives d'habitants mais notamment des Suisses pour imaginer un lieu de vie à la fois intergénérationnel et accessible à tous les publics avec une logique de loyer social qui remplacerait le logement social. Parce qu'on se pose aussi une question, à savoir pourquoi est-ce qu'on continue à faire des logements de riches et des logements de pauvres? Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un logement standard, enfin un peu sympa, de qualité, fonctionnel, adapté à tous les publics? Et pourquoi est-ce que c'est pas le loyer qu'on mettrait participatif et comment dire...
On donne en fonction de ce qu'on gagne?
On donne pas en fonction de ce qu'on gagne, mais c'est un peu ce que fait la CAF aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on participe à la hauteur de ses moyens. Puisqu'aujourd'hui, la CAF, c'est son boulot, elle compense les différences de loyer, hein, c'est bien pour ça que la PL existe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas en œuvre ce genre de choses? C'est la question que je suis venue poser. Nous, on le fait, on essaye de le faire dans le Haut-Jura.
D'accord. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe?
On a acheté une maison dans le Haut-Jura avec un café-restaurant, donc dans l'esprit de celui-là au rez-de-chaussée. Notre idée, c'est de faire un café culturel et au-dessus d'accueillir plusieurs publics dans un même lieu. Donc au rez-de-chaussée, on a un logement PMR pour une mamie ou une personne handicapée. Au-dessus, on a une coloc étudiante qui nous pose de gros problèmes législatifs. Les Suisses l'ont fait, mais nous, on ne sait pas le faire.
Pourquoi?
Parce qu'on ne sait pas.